les voix de l'égalité. Aujourd'hui, nous rencontrons une artiste dont la voix ne sert pas seulement à chanter, mais aussi à dénoncer, à sensibiliser et à soutenir avec son nouveau titre consacré aux violences faites aux femmes. Elle met en lumière un sujet encore trop souvent réduit au silence. À travers sa musique, elle transforme son art en espace d'expression, de solidarité et d'espoir. Nous allons évoquer avec elle la genèse de ce morceau, son engagement et le rôle que peut jouer la musique face à cette réalité, les voix de l'égalité. Entretien avec Eloïsha, accompagnée de son producteur, ma foi, Pierre.
Je suis une artiste, mais je suis avant tout une femme engagée. Et j'ai moi-même été victime, en fait, de violences conjugales il y a quelques années. Et j'ai réussi à m'en sortir. J'étais dans une relation toxique. Et en fait, dans la continuité aussi de mes démarches artistiques et en tant que femme engagée, j'ai voulu marquer le coup par rapport à la journée du 25 novembre, donc date à laquelle on a sorti le morceau. Il faut savoir que le 25 novembre, c'est la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, donc contre les féminicides. Et donc moi, je voulais donner ma pierre à l'édifice et écrire une chanson justement pour marquer le coup et puis aussi pour livrer ma propre expérience, pour donner ce message en fait d'espoir et de courage aux femmes de sortir de ce genre de relations, de savoir dire stop au premier coup, au premier geste.
Je suppose que ça n'a pas dû être facile de se livrer comme ça.
Ça n'a pas été facile du tout.
Vous avez été accompagnée. Comment
j'ai
a
été
accompagnée, le processus ça a été fait.
J'ai été accompagnée parce que c'est vrai que c'est un sujet qui pour moi est très intime, qui est même assez privé. Il faut savoir qu'avant de sortir le morceau, j'ai commencé à parler en fait sur mes réseaux sociaux, notamment sur TikTok. En fait, j'ai livré mon propre témoignage sur 7 minutes. J'étais à cœur ouvert. J'étais dans une simplicité profonde et en fait ça a été pour moi une sorte de thérapie personnelle. Voilà, de toute façon pour moi la musique et l'écriture déjà dans un premier temps m'a toujours aidé à soigner mes mots avec des mots. J'ai d'abord livré mon propre témoignage, je me suis mise à nu en fait auprès des personnes qui me suivent. J'ai été fortement encouragée par mon équipe qui me connaissent donc personnellement et qui m'ont dit mais non mais en fait t'as des traumas. On m'a dit très clairement, on m'a dit non mais meuf t'as des traumas, ça se ressent. J'ai refait ma vie aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'exceptionnel, mais quand on a vécu ce genre de choses, même quand on réussit à s'en sortir, même dans sa nouvelle relation, on va toujours avoir des stigmates. La personne avec laquelle je suis dans ma vie m'a dit « Non mais là, tu devrais vraiment, en fait, en faire une chanson. Toi-même, ça va te donner encore plus la force d'aller de l'avant. » Et je me suis dit « Ok, t'as raison. » Et je me suis dit « Je vais me mettre à nu. » J'ai livré mon témoignage. Franchement, j'étais très émue. J'en ai même pleuré, à vrai dire. Parce que j'ai vraiment subi des choses graves. Ça a d'abord commencé par de la violence morale. Des mots, on me rabaisse. Comme on est amoureuse, on a beau être femme forte, dite femme forte, mais en fait, il y a cette notion aussi, tu sais, quand on nous dit t'es une femme forte, à toi ça peut pas arriver, mais en fait, ça, c'est pas une question d'être femme forte ou faible, en fait. Face à l'amour, on est tous, comment dire, on peut tous être faibles, en fait. Quand on est amoureuse, on se rend pas compte de certaines choses. Comme on dit, l'amour rend aveugle parfois. Et c'était une personne qui était un peu plus âgée que moi et qui m'a complètement lobotomisée à cette époque-là. Donc voilà, j'ai livré mon récit. J'en ai fait une chanson. Pas sur mon histoire, mais sur le féminicide et contre les violences conjugales. C'est un gros stop au féminicide, stop à cette banalité. Je trouve qu'on minimise encore trop les féminicides et les violences faites aux femmes. On en parle de plus en plus dans les médias, mais je trouve que ça reste encore trop dans les faits divers.
Ça se limite, selon vous, à une seule journée ou un peu ?
C'est l'impression que j'ai eue. Mais j'ai l'impression que cette année, il y a vraiment un mouvement qui est dans la continuité. Donc, c'est vrai que moi, comme je dis, j'ai sorti ce morceau le 25 novembre. Mais là, avec le mouvement aussi avec Je suis conne, je trouve qu'on est, on continue à être dans cette continuité où, par exemple, on parle en ce moment de l'affaire d'Harry Habitant. En fait, avec le non-lieu qu'il y a eu, mais que le mec continue quand même à jouer dans des théâtres, il se fait boycotter, etc. Avec le fameux « Je suis sale conne » de Brigitte Macron, je trouve que les femmes sont vraiment dans une phase de révolte. Je trouve qu'entre femmes, on est beaucoup plus solidaires qu'avant. Et donc, je trouve que ce message commence à s'exporter au-delà d'une simple journée. Je fais plusieurs représentations à des échelles privées ou publiques. J'ai fait un live aussi sur Instagram. J'ai fait un live piano-voix. Je fais du studio parce que j'enregistre mon EP, donc on se doit d'avoir nos morceaux sur les sites de téléchargement légal. Mais j'ai voulu livrer une version piano-voix en live. Donc, c'était pas une version préenregistrée. Je chante vraiment avec le pianiste parce que je trouve que pour avoir ressenti l'authenticité de mes mots et de ma voix, il fallait donner cette version-là. Et j'ai eu énormément, justement, de retours positifs. J'ai eu des retours de gens assez choqués, d'ailleurs. On est assez choqués, en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez joyeuse dans la vie.
Vos proches ont accueilli
mes
ce titre comment?
Et puis, ah, alors, mes proches ont été choqués, mes parents les premiers. Ils ont été assez impactés, d'ailleurs, parce que... Ils savaient que je sortais d'une relation compliquée, mais ils ne savaient pas à quel point.
Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'on ne savait pas. Vous cachiez bien.
J'ai caché. Voilà. J'ai caché. Il faut savoir que moi, j'étais l'ombre de moi-même.
C'est ce que
en
font...
fait, j'ai sombré.
C'est ce que font la plupart des femmes ouais. victimes de violences.
Ouais. Marie, j'ai pendant un mois, j'ai fait des lives TikTok où j'invitais des personnes à venir se livrer, à témoigner de leur expérience personnelle. Pour certaines qui, comme moi, ont réussi à s'en sortir... Et certaines qui vivent encore actuellement dans des relations toxiques. Moi, j'ai eu un homme qui s'appelle Tonio, qui a été victime de violences conjugales, qui a livré justement son histoire. J'ai eu aussi une chanteuse, Lisa Monet, qui a aussi livré son histoire. On a vraiment ce truc commun où, en fait, t'es dedans, mais tu t'en rends pas compte. Et puis, au début, tu pardonnes toujours. Parce que tu dis que, par exemple, moi, l'homme avec lequel j'étais, il a eu une enfance difficile. Il s'est fait taper étant petit, donc tu dis non mais le gars il a des traumas, je vais l'aider à s'en sortir, il m'a giflé mais c'est normal, pour lui c'est à moi de l'aider, mais en fait non, gars, soigne-toi avant de vouloir te mettre en relation. En fait on s'est rendu compte, donc déjà dans mon expérience personnelle, mais même en parlant avec d'autres femmes et d'autres hommes, parce que je tiens à le préciser, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, il y a des hommes aussi. Il y a ce truc commun où c'est des personnes qui ont eu des traumas, qui ont eu des enfances difficiles et qui ne se sont pas fait soigner. Et il ne faut pas pardonner pour autant.
Lorsqu'une femme est victime de violence, elle demande de l'aide,
oui.
Elle a des enfants. Ce sont les femmes qui partent du foyer pour fuir. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plutôt le contraire et qu'une aide serait nécessaire à ces personnes, à ces hommes aussi?
Alors, je vais me permettre de te parler de cas réels. Mm-hmm. Donc, suite au live TikTok que j'ai fait, j'ai rencontré une jeune fille, on va la laisser anonyme, qui a 32 ans. Elle a eu 4 enfants avec son bourreau, parce qu'on peut appeler ça son bourreau. Vraiment, il la battait devant les enfants de bas âge. Je l'ai eu au téléphone. Moi, je suis empathique et j'arrive pas forcément toujours à garder les barrières en mode non, ça reste sur live TikTok. Elle m'a tellement touchée, je lui ai donné mon numéro de téléphone, elle m'a donné le sien et j'ai continué à prendre de ses nouvelles régulièrement. Et là, elle m'a appelé pour dire écoute, Eloïcha, ça y est, les flics ont fait leur boulot. Il y a une restriction, donc il n'a pas le droit de s'approcher à plus de. 2-3 kilomètres, je sais plus le kilomètre exact, mais en tout cas, voilà, ils ont fait leur boulot. Et elle va même être relogée.
Mais avant que ça arrive, il y a beaucoup de temps qui s'écoule.
8 mois.
8 mois.
Ça a mis 8 mois. Et elle a dû prouver. Elle a dû prouver des appels, elle a dû prouver des mails. En plus, ça a commencé par des mails en mode tu me manques, je t'aime, on peut pas se séparer, excuse-moi, je viens du Congo, chez moi, c'est normal. On est obligé d'en rigoler, mais franchement. Et du coup, bah voilà, elle a eu ça. Et puis après, le mec a vu que bah non, elle était plus réceptive, elle était plus forcément sous l'emprise, en tout cas plus à 100%. Et là, il a commencé par des mails de menaces. Donc après, le mec est bête, quoi. Parce que les preuves écrites, il n'y a rien de mieux pour faire valoir ses droits. Par rapport à toutes ces preuves-là qu'elle a dû constituer, ils se sont enfin bougés. Mais ça veut dire qu'on est quand même obligé de se battre, nous les femmes, pour prouver qu'on est vraiment menacé par notre conjoint. On est vraiment obligé de constituer un dossier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les bleus ne suffisent pas.
Oui. Vous êtes artiste depuis un moment.
Oui.
C'est la première fois que vous sortez un titre comme ça.
J'ai fait beaucoup de morceaux sociétals. Le premier single que j'ai sorti en 2021, c'est LPTTF, c'est « Laisse pas traîner ton fils ». C'était une reprise donc de NTM, Laisse pas traîner ton fils. Et donc, je raconte l'histoire d'une mère seule, une mère isolée, qui va tout faire pour s'en sortir, pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant et qui est même prête à tout, même au pire, même à aller jusqu'à la prostitution pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, même à cacher de la drogue chez elle pour pouvoir avoir le plus d'argent possible, à voler dans des magasins. Et c'est un sujet qui était tellement impactant qu'avec la personne avec laquelle on a fait le clip à l'époque, Nejma, on devait faire un clip donc de 3 minutes 15, donc le temps de la chanson. Finalement, ça s'est transformé en court-métrage. On a fait un court-métrage de 8 minutes 30 qui est disponible sur YouTube. Et donc voilà, j'ai vraiment commencé en fait avec tout de suite un sujet important, impactant. C'est même une chanson des fois qui est étudiée dans certaines écoles. J'ai une copine qui est à Sciences Po et là on a parlé justement lors d'un exposé et je trouve ça très intéressant. On a aussi sorti le titre Afro Beauté, Je suis belle, je suis forte avec mes cheveux en afro, je m'adore, qui est l'hymne des cheveux afro et qui est surtout contre la discrimination capillaire. Voilà. Après, j'ai fait effectivement d'autres morceaux légers parce que j'essaie quand même de donner à manger à tout le monde, entre guillemets.
Oui. Mais vous abordez tout de même des thèmes aussi sensibles que les violences.
Oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Surtout quand il y a des grandes dates comme ça, je me dis, si vraiment ce sont des thèmes qui me touchent personnellement, j'y vais, quoi, sans réfléchir. Après, c'est vrai que certaines personnes m'ont dit, ah, mais là, on s'attendait à un truc un peu plus dansant, un peu plus égotrip. Mais j'ai dit, il y en a assez comme ça, des morceaux. Voilà.
D'accord. Et au niveau de l'écriture, comment ça se passe? Vous avez un moment à vous pour écrire, plutôt en soirée, ou ça vient comme ça? Vous avez toujours un calepin, quelque chose pour enregistrer?
Alors, j'ai toujours mon dictaphone.
Oui.
J'ai le dictaphone de téléphone. Et à chaque fois que j'ai une idée, ça va venir avec une mélodie que je vais enregistrer. Des fois, c'est dans le métro, ça peut être n'importe où d'ailleurs, même en marchant dans la rue. Et en fait, je vais toujours, même des fois, si j'ai pas la mélo, voilà, je vais le noter sur mes notes. Moi, je suis madame téléphone. Hein. Je vais noter tout sur mes notes et j'ai pas un processus qui est toujours le même. Ça dépend. L'inspi vient comme ça. Il y a des fois aussi où je suis en panne d'inspi. Mais ce qui me touche vraiment le plus, j'ai même des fois plus de mal à faire des sons ego trip, dansant, fun, soleil, qu'à parler de vrais sujets, en fait. On avance dans le temps et je trouve que c'est important de. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de moins en moins d'artistes qui se mouillent pour parler de vrais sujets. Et si moi, je peux donner ma petite pierre à l'édifice, à mon humble niveau, je le fais, sans hésiter.
En abordant des thèmes aussi sensibles, comment vous faites pour rester juste, respectueuse et authentique? Ça ne doit pas être évident.
Alors ça, c'est vous qui le dites.
C'est pas facile.
C'est vous qui le dites, donc je le prends comme un compliment. Donc
oui,
merci.
Bien sûr.
Merci. Honnêtement, je... Aujourd'hui, en tout cas, parce que ça n'a pas toujours été le cas, quand on essaye de faire sa petite place dans un milieu tel que la musique, qui est un milieu de requins, on essaye des fois d'arrondir les angles pour plaire à tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que je fais. Je fais ce que j'ai envie de faire et je suis moi. Et vraiment, comme je dis, c'est qui m'aime me suive, en fait. Si on m'aime pas avec mon authenticité, j'y peux rien. Moi, tout ce que je fais, c'est avec mon âme, c'est avec mon cœur. Voilà.
Avant de sortir le titre sur les violences faites aux femmes, votre musique, est-ce qu'elle était un peu différente, puisque vous vous êtes un peu libérée après l'écriture de cette chanson?
Alors oui, c'est une sorte de libération personnelle plus qu'artistique finalement.
Okay.
Ça a été vraiment une thérapie. Pour moi, ça a été un sujet très sensible. Et j'ai perdu un bébé par rapport à ça. Et en fait, ça a été... C'est ma plus grosse peine aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, j'ai du mal à procréer. Et franchement, j'ai eu comme un rêve, en fait. La nuit, et j'ai vu ma vie avec mon enfant. Alors certes, mon enfant que j'allais aimer plus que tout au monde, mais avec une vie où j'allais pas être heureuse, où j'allais me sentir complètement oppressée et déprimée et tout ce qui s'ensuit. J'ai pris la décision d'enlever cet enfant et j'ai menti absolument à tous mes amis et même à ma famille pour dire que j'avais perdu l'enfant. Or non, j'ai avorté. Et en fait, c'est un truc qui était bloqué en moi. Et comme le disaient les médecins, non, mais vous n'avez pas de problème, en fait. C'est juste dans vos têtes, ça doit être dans vos têtes. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est dans ma tête parce que je ne me suis pas pardonnée. Mais vraiment, je ne me suis pas pardonnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand je prie, je suis franco-ivoirienne et je suis très animiste aussi, quelque part. Et je parle au bébé que j'ai perdu, en fait. Et tous les jours, je lui demande pardon. Et ça, c'est un trauma qui est plus grave pour moi que d'avoir vécu cette violence conjugale avec l'homme avec lequel j'étais.
Cette violence n'a pas impacté votre musique, votre vie d'artiste, n'a jamais pu...
Non, hein, et puis après, je vais quand même dire un truc, je suis pas maso, mais je trouve que les artistes écorchés sont les plus sincères.
La musique apporte beaucoup à ceux qui l'écoutent et à ceux qui créent aussi.
Oui, oui, oui. La musique, de toute façon, comme je dis, c'est une thérapie. Déjà, pour ceux qui l'écoutent, en général, c'est une thérapie. Mais pour nous, artistes, la plupart des artistes, en tout cas, que je côtoie, sont des hypersensibles, sont des âmes un petit peu écorchées. Et je trouve que voilà, donner du sens à tout ça, c'est écrire aussi des textes qui nous parlent et qui nous ressemblent.
Est-ce que vous proposez votre témoignage aux jeunes filles dans les écoles, les MJC?
Alors, je ne l'ai pas encore fait sur ce thème-là. Je l'ai fait dans le cadre de la discrimination capillaire, ou autour de la discrimination capillaire, je parle du vivre ensemble et puis de l'empathie aussi, parce que c'est important. Il y a certaines écoles en Suède qui ont cette matière-là, d'apprendre l'empathie. Et en France, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas. Et donc moi j'essaye vraiment de le proposer aux écoles, même si c'est vrai que certaines écoles sont fermées parce que c'est tout nouveau pour eux, mais bon, j'arrive quand même à faire mon petit trou. On arrive avec Pierre Mafoy à faire notre petit trou.
C'est sous forme d'atelier ? Comment ça se passe ?
C'est sous forme d'atelier. Mmh. En fait, on fait un atelier d'une heure et demie où en fait, on interroge chaque élève, chaque enfant, sur lui, ce qu'il aime en lui, comment il voit son camarade et sur ses tolérances en fait. L'issue de cet atelier-là, c'est que tout le monde s'accepte avec leurs différences. Mmh. Voilà. Et apprennent aussi à pardonner, à aimer l'autre.
Est-ce qu'il y a des réactions qui vous surprennent ?
Jusqu'à présent, on a été bien reçus. Mais après, c'est vrai que quand on a des élèves, c'est ça qui est beau aussi. Quand on a des élèves de toute origine, de toute religion confondue, et surtout, là, c'est vrai que dans Afro-Beauté, on parle de cheveux afro. Donc quand on a en face de nous un enfant qui n'a pas du tout cette culture du cheveu afro, il comprend même pas. Mm-hmm. Mais en fait, je lui dis non, mais justement, t'as pas le cheveu afro. Et cette chanson-là, elle a été écrite de base parce que ma petite nièce revenue de l'école en pleurs, parce qu'elle a reçu des insultes, des moqueries, parce qu'on lui disait qu'elle était moche avec ses cheveux et qu'elle pouvait pas être une princesse. Donc quand je vais dans les écoles, je m'adresse aussi à tous les harceleurs potentiels là, à tous ceux qui se moquent de nos enfants et qui font qu'on grandit comme moi j'ai pu grandir, hein, comme beaucoup d'entre nous ont pu grandir avec des traumas, à se défriser les cheveux, à se cacher et ne pas s'assumer tel qu'on est. Après, attention, je suis pas contre les perruques, contre les faux cheveux, aujourd'hui j'ai des tresses, j'aime bien changer de tête, mais on a grandi avec ces traumas en mode, ouais, le cheveu afro c'est moche, c'est pas conventionnel, ça fait sauvage.
C'est des cheveux électriques.
Des cheveux électriques, voilà, on en a. Mais moi j'en rigole hein, maintenant, c'est pas grave, hein, mais c'est pas grave. Si c'est grave, mais j'arrive à en rigoler.
Le titre a paru le mois dernier, donc je suppose que vous êtes en pleine promo. Est-ce que vous avez des dates pour 2026 ?
Alors là, on est en studio, on est en train de finaliser l'EP. Mmh. On a prévu de faire un concert au mois d'avril. Voilà, je te communiquerai la date.
Oui.
Pour le moment, on n'a pas encore la date définitive. C'est un concert où je serai accompagnée de musiciens. Pour moi, c'est très important parce que je viens de là. J'aime l'organique. Donc voilà, mais on finit l'album. Pour moi, c'est important. Avant même de commencer une tournée.
Sur chaque scène, vous êtes accompagné de musiciens ?
Alors, pour le moment, des fois, c'est acoustique. Des fois, c'est guitare-voix. Des fois, c'est piano-voix. Et la plupart du temps, je suis avec mes deux choristes et mon DJ. Big up à DJ Sonic M, d'ailleurs.
Pour terminer, est-ce que vous souhaitez développer d'autres projets artistiques engagés, aussi engagés que
oui,
vous
le
faisiez ?
Oui, alors on va continuer l'Afro-Beauté Tour. Mm-hmm. L'Afro-Beauté Tour, donc comme je le disais, donc on va dans les écoles, on parle de la discrimination capillaire, mais en fait, ce n'est pas un projet qui s'étend à l'échelle nationale, c'est un projet international. Il faut savoir qu'on est déjà parti en Côte d'Ivoire, donc à Cocody, à l'école La Pépinière. En fait, à chaque fois, on fait un reportage, on vient avec un caméraman. Mm-hmm. Et en fait, on finit par la chorégraphie, les enfants apprennent la chanson par cœur. Il y a vraiment un truc magnifique, même presque magique qui se passe. Je suis partie aussi au Maroc, à l'orphelinat Kinder, pour faire découvrir la chanson aux enfants. Pareil, j'ai fait un atelier autour de ça. Et là, en fait, on est en pourparlers avec le Brésil pour faire une version brésilienne, enfin portugaise, pour les pays lusophones.
Quand est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir sur scène dans le Val d'Oise ?
Invitez-nous, le Val d'Oise. Entendez ça, entendez-nous. J'ai fait un concert cette année. C'était pour la fête de la musique. C'était à Villiers-le-Bel. Voilà, j'ai fait un concert pour la ville de Villiers-le-Bel. Donc je termine l'album et je vous tiens au courant pour toutes les dates à venir.
On vous entendra sans doute le 8 mars prochain.
Oui.
Oui.
Le 7 mars, je serai au Salon Hoche en showcase. Le 8 mars, on sort un livre, c'est une nouvelle, qui retrace l'histoire de trois femmes qui ont vécu, qui vont décéder par rapport au féminicide.
Vous avez participé à l'écriture ?
Alors, j'ai participé fortement à l'idée.
L'idée ?
Voilà, tu peux répondre, ouais. C'est Pierre Mafoy, l'auteur.
Pourquoi est-ce qu'on a écrit un livre ? On s'est rendu compte que quand Eloïcha, elle a écrit la chanson Afro-Beauté, on en a fait un livre aussi. Un conte pour enfants qui se vend super bien. On a été hyper
surpris. On a été en rupture de stock, ouais.
Rupture de stock à la FNAC, sur Amazon, tout ça. Et du coup, on s'est rendu compte aussi que l'impact du livre a redonné une nouvelle vision à la chanson. Et moi, j'écris. J'ai toujours écrit. Et du coup, quand elle a fait son titre, contre les féminicides, moi je me suis dit, bon, bah, je vais écrire trois nouvelles, trois histoires de trois personnes qui vont vivre un féminicide. Et du coup, on s'est dit, bon, on va le sortir le 8 mars pour les droits de la femme. Mmh. On a déjà un éditeur, on est content. Et effectivement, on va, pour pas spoiler, non, on va pas tout raconter, on va suivre trois personnes qui, à la fin, bah, décèdent.
D'accord.
Par leur bourreau.
Ouais, c'est dur. Hein.
Ouais.
C'est dur. Alors, c'est bon, moi, réalité. J'ai eu forcément le privilège de le lire en avant-première. Mm-hmm. Mais donc, déjà, Marie, on te l'offrira, c'est évident.
Oh, super, merci.
Mais je t'assure que je l'ai lu. Alors, je l'ai lu en une après-midi, j'ai mis 4 heures, mais en non-stop. Hein? Ça ne me ressemble pas. Mais j'en ai pleuré. Enfin, oui. J'avouerai, j'étais en train de me faire tresser. Tu vois, nos tresses là, qui durent 10 heures de temps. Oui. J'ai pleuré et ma coiffeuse m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as, je te fais mal ?» C'est très fort et pour nous les femmes, c'est très poignant.
Ouais, c'est dur, t'as raison.
Et puis surtout, c'est réaliste, quoi.
Oui, il sera présenté dans les lycées, les établissements.
Bah, moi, j'aimerais... Sur Afro Beauté, on a, ça devait se faire. On va avoir un partenariat avec l'Éducation nationale, le livre. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la chanson d'Afro Beauté, je ne sais pas si Marie, tu l'as entendue.
Oui.
C'est une chanson qui où c'est des enfants au refrain. Et on a été, et le chat a été convoqué à l'Assemblée nationale quand même, reçu
par Olivier Servat, qui est le député d'Outre-mer.
D'Outre-mer, mm-hmm. qui lui est sur ce combat, il fait une loi anti-discrimination capillaire. Et on devait avoir cette chanson à promoter et rentrer dans les écoles. C'est des enfants en refrain. Donc elle est rentrée dans les écoles, elle est rentrée dans les maisons, elle a explosé sur TikTok, parce qu'elle en parle, je trouve qu'elle en parle pas assez bien là. Elle a explosé sur TikTok. Et quand elle dit on part au Brésil pour faire une version, c'est le Brésil qui nous ont appelé en disant on veut notre version, parce que nous aussi on a ce souci de discrimination capillaire. Et là où je reviens sur le bouquin, moi j'aimerais beaucoup que le livre qui s'appelle Les vies silencieuses rentre dans les écoles. Mais en vrai, c'est quand même une écriture d'adulte. Dedans, ça parle quand même de sexe, de meurtre, donc je pense pas que ça va rentrer dans les écoles.
Mm-hmm.
Ouais, il y a ça qui va bloquer. Mais
je pense qu'à partir du lycée, c'est possible. Ouais. Je pense que pour Afro Beauté, justement, c'est un livre qui a été vraiment pensé pour les enfants.
Mm-hmm.
Mais là, on est sur un truc un peu plus adulte, ouais, et je pense que dès lors de la seconde, déjà, tu peux commencer à étudier ce sujet. Ouais. Et même, c'est important, ça, c'est une sorte de prévention. C'est important, justement, d'en parler dès le lycée.
Vous pensez que vous donnerez des conférences un peu partout pour...
C'est ce qu'on aimerait.
Oui.
Sur ce livre-là, j'aimerais beaucoup, parce que c'est un homme là, qui va raconter, c'est pas une femme. Mm-hmm. C'est un homme, et donner ma vision d'homme. Je suis un homme qui a été élevé par 6 femmes. J'ai 5 sœurs et une maman. Donc si on nous convoque, si on pousse le truc au bout, ce serait intéressant, je pense. Ce serait intéressant, un peu comme on fait pour Afro Beauté Tour. Je l'ai pensé vraiment pour les adultes. Là, tu soulèves un vrai point, Hello. Dans les lycées, ça va rentrer. C'est bien pour les lycéens. Mais comme j'ai pensé
c'est à... C'est un autre public, là.
Ouais,
donc,
j'ai pas du tout pensé à aller dans les écoles. Mais si on nous appelle, qu'on nous invite, ce sera avec plaisir.
Ah, mais je pense que, justement, on n'en parle pas assez. Et en fait, c'est la suite logique. C'est, comme tu dis, on a sorti Afro Beauté. Un an après, on a sorti le livre. Mmh. Là, pour le coup, on a sorti le Stop au féminicide le 25 novembre. On a le livre qui arrive le 8 mars. Mais je trouve qu'effectivement, on doit rester dans cette dynamique-là. Et on doit vraiment aller dans les écoles, démarcher en tout cas, et en parler. En fait, je trouve que même dès le lycée, on peut en parler. Parce que c'est l'âge où ils sont en pleine puberté, t'as le premier petit copain, la première petite copine. C'est important.
Mm-hmm.
Nos filles ne sont pas assez prévenues de tout ça.
L'artiste Eloïcha, franco-ivoirienne parisienne et mélomane depuis sa plus tendre enfance, nous a livré son témoignage aussi percutant que poignant. Un entretien en écoute dans notre sélection podcast. N'hésitez pas à la joindre sur les réseaux sociaux et son titre en écoute dans la playlist d'Alternative FM. Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.
Sans peur, mais chaque nuit une femme disparaît. On a compté, on a pleuré, on se réveille. Plus jamais. Je marche dans la nuit, l'angoisse me serre le cœur. Un cri dans le silence, une absence, une douleur. On dit conjugal, excès de passion. Mais c'est pas l'amour, c'est la violence en action. Chaque date raconter un nom, un visage. Sur la terre.
embrasser l'air pour crier ta vérité. Que chacun entende, on ne peut plus fermer les yeux. Stop aux féministes et stop à cette impunité. Trop de vies déjà envolées. Stop aux féministes et stop à la banalité. On va compter chaque nom. On veut que la justice entende nos cris, nos vérités. Chacun de ces chiffres est une femme qu'on aimait. Une voix qu'on efface, une histoire qu'on ferme. Et si je déclame, ton nom ne sera pas oublié. On te chante, on te porte, tu restes dans nos pensées. Trop de larmes courent, trop de vies brisées. La différence tue, l'oubli est puni. Mais ma voix s'élève pour crier ta vérité. Combien de nuits à pleurer dans le silence. Debout, lève-toi, que nos voix soient lumière. Brisons le pacte du silence. Réveillons la conscience. Oh, 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 oh. Stop aux féministes et stop à cette impunité. De vies déjà envolées. Stop aux féministes et stop à la banalité.
No.